Cette entrevue-là, on pense à l'affaire depuis une couple de jours, hein, Karen? Mm-hmm. Ça peut pas mieux tomber, là. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grosse nouvelle. Je vous la résume, mais vous allez voir, on n'a pas besoin de rentrer trop dans la controverse, dans le jugement. On va plus se mettre en mode. Essayons de comprendre. Hein, depuis le début de la pandémie, évidemment, il y a des rivalités, des conflits, des controverses, toutes sortes de gangs. Des fois, peser sur pause, on va essayer de comprendre un peu, comprendre l'autre.
Oui.
Les gens qui pensent pas comme nous autres. Alors, la grosse nouvelle, c'est que la date butoir du 15 octobre pour les infirmières est finalement tombée. Christian Dubé a reculé. Il a dit, on peut pas. On va en perdre trop, puis le système de santé aurait trop d'impact. C'est trop fragile. Alors là, ça a rendu beaucoup de monde très heureux. Les complotistes, négationnistes, anti-vaccins, je sais pas trop, là. Justement, on leur trouve souvent des termes, des catégories, mais bon, là, ce monde-là sont heureux, ils ont gagné, c'est le Super Bowl, c'est le débarquement de Normandie, c'est la grande victoire de la liberté. Puis là, de l'autre bord, t'en as plein qui sont fâchés. Parce que, ben, justement, parce qu'ils ont gagné. Tous ceux qui ont fait l'effort d'aller se faire vacciner, ils se disent, comment ça? On leur donne un break. Pourquoi? Bon, je veux pas revenir là-dessus, là. Dubé a expliqué ses raisons. Le système est trop fragile. Mais on est donc dans la journée parfaite pour se poser ces questions-là. C'est qui ce monde-là? Ces infirmières ou pas juste eux autres? Ces gens-là qu'on traite parfois d'anti-vaccins, là. C'est-tu toutes les mêmes raisons?
Pourquoi?
Est-ce que c'est la même catégorie? Pourquoi? Est-ce qu'il peut y avoir des bonnes, des moins bonnes raisons? On va rejoindre à l'instant la docteure Geneviève Beaulieu-Pelletier pour discuter justement des raisons de l'hésitation à la vaccination. Elle est psychologue et conférencière. Docteur Beaulieu-Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Alors, d'abord, est-ce qu'on fait une erreur? Parce que depuis le début, là, les gens, on met des étiquettes, hein, les complotistes, les négationnistes ou les anti-vaccins. Est-ce que c'est une erreur d'essayer de mettre tout le monde dans le même paquet quand on parle des gens qui refusent d'être vaccinés?
Ben, je vous dirais que oui, dans la mesure où ça nous empêche de vraiment comprendre les raisons qu'il y a derrière leur choix, par exemple. Donc, derrière un même choix qui est de dire, ben, j'hésite ou je refuse de recevoir le vaccin, ben, si on met tout le monde dans le même panier, ça nous empêche de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et derrière, il y a tout un monde émotionnel. Et il y a différentes raisons qui peuvent mener quelqu'un à faire ce choix-là. Donc, si on ne s'intéresse pas aux raisons psychologiques et émotionnelles qu'il y a derrière, mais on peut absolument pas comprendre la réalité de ces personnes. Et justement, juste dans la façon de le voir, hein, c'est comme de dire ces personnes-là. Il y a quelque chose qui est très, très rejetant, qui exclut davantage, et on s'aide pas, là, collectivement parlant, on s'aide pas quand on fait ça.
Bon, mais on va faire un effort, là, puis on va inviter les auditeurs aussi. Je sais que sur les internets ou etc., c'est souvent un coup d'insulte et tout. Essayons de comprendre un peu quelles sont, vous avez dit, il peut y avoir différentes raisons. Parlons-en un peu, c'est quoi les principales raisons, selon vous, de refuser le vaccin?
Ben, il y en a plusieurs. Si on en regarde quelques-unes, hein, on parle souvent de l'incompréhension par rapport à toute l'information. On est bombardé d'informations, mais quand il y en a trop puis qu'il y a beaucoup d'avis contradictoires, ça vient être très difficile. On peut être très perplexe et absolument ne pas être enclin à aller chercher le vaccin parce qu'on ne comprend pas réellement, par exemple, le seuil. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ce soit vraiment plus que 85, par exemple? Ou quand on fait des volte-face, par exemple, au début de la pandémie, dire non, pas de masque, et ensuite, oui, le masque, des petits revirements comme ça font en sorte que, ah, je vais allumer le doute chez les personnes. Donc, ça peut nous nuire. Donc, cette idée d'avoir beaucoup d'informations et, en plus, il y a beaucoup de désinformation. Donc, ça, on sait que c'est un facteur important, mais il y a d'autres raisons. Ça peut être carrément des craintes liées à la piqûre comme telle ou encore aux effets secondaires. Des fois, ça peut nous sembler irrationnel. Ben, voyons donc, c'est juste une piqûre. Non. Ça peut être très, très, très anxiogène d'aller recevoir comme ça une piqûre, même des fois seulement de regarder une image de quelqu'un qui se fait vacciner peut faire vraiment monter beaucoup l'angoisse. Mais on peut penser à d'autres facteurs, comme par exemple le fait de se sentir profondément impuissant. On a parlé beaucoup de fatigue pandémique. Le fait de se sentir, à ce stade-ci de la pandémie, là, on est résigné. Hein? Il y a une perte d'espoir pour plusieurs. Le fait de se dire, c'est juste une autre étape. Oui, le vaccin est là, mais on voit les variants qui se pointent à l'horizon. Donc, cette impuissance-là peut mener certaines personnes à faire, ben, à quoi bon? À quoi bon aller recevoir le vaccin? On peut aussi penser à d'autres raisons, comme par exemple, il y a certaines personnes qui vont être très méfiantes par rapport au fait d'introduire quelque chose dans leur corps. Donc, ça peut être vraiment très, très perturbant. Donc là, on n'est pas dans la peur de l'aiguille comme telle, ouais, mais on est vraiment dans incorporer un élément en soi. Ça peut être vécu comme une intrusion, même une micro-agression. Donc ça, il faut le comprendre. Si on ne sait pas que ça existe, ben on passe à côté des
raisons. On s'éloigne du portrait robot qui nous est souvent présenté dans les médias, là, de quelqu'un qui fait des capsules YouTube puis qui fait référence à Bill Gates ou à la 5G ou à ces patentes-là, puis à tous les complots. Mm-hmm. Là, vous nous présentez du monde que peut-être on voit moins, on entend moins, mais qui existe et dont les raisons sont, sont moins choquantes un peu. Parce que les complotistes, des fois, c'est vrai que ça devient un peu énervant, là. Mais les gens que vous nous présentez, et ça sera ma prochaine question, j'ai l'impression qu'il y a de quoi faire avec ça. Dans le sens, essayer de les convaincre, essayer à tout le moins de les comprendre ou peut-être même de les convaincre.
Mais tout à fait. En fait, je dirais dans tous les facteurs qu'on présente, il y a moyen soit d'offrir des solutions alternatives, qu'on pense par exemple à de la zoothérapie pour quelqu'un qui a peur des aiguilles, par exemple. Donc, ça, c'est une solution. Mais je vous dirais aussi dans la façon de présenter les mesures. Donc, avant que les personnes se radicalisent davantage ou se polarisent davantage, oui, il y a moyen d'aller établir un dialogue. Mais même quand vous parlez de complotisme, par exemple, ou d'avoir des croyances dans un certain déni de la COVID, même ce vécu-là est très important à comprendre parce qu'on peut avoir tendance à rejeter ça de revers. Justement, ce sont des radicaux. Mais regardons les raisons qu'il y a derrière. On peut très bien voir que un individu qui, par exemple, aurait un vécu particulièrement difficile en lien avec le rejet, se sentir exclu de la société de façon générale avant la pandémie. Et des personnes qui ne se reconnaissent pas dans le discours officiel, donc dans les normes actuelles qui sont proposées. Alors là, les normes, les mesures sanitaires, en fait, sont vécues comme étant contrôlantes. Alors, quand on les ridiculise, par exemple, ou on les pointe du doigt, on les parodie, qu'est-ce qu'on fait? On est simplement en train de réactiver le rejet. Donc, d'ajouter encore plus de rejet dans une assiette qui déborde de blessures comme ça du passé.
Alors, fait quoi? Parce que si, là, moi, je vous suis sur les gens qui ont peur de la piqûre, qui ont peur de l'injection de quelque chose dans leur corps, sentiment d'impuissance, vous nous avez décrit plein de raisons où je pense qu'il y a de quoi faire, puis on peut essayer avec respect de convaincre ces gens-là. Mais je vais être honnête avec vous, moi, les complotistes radicaux, j'ai déjà dit en ondes, il n'y a rien à faire avec ça, perdez pas votre temps, là. Si tu penses vraiment qu'ils t'injectent une puce 5G, que tous les médias, on est tous des vendus, puis on est payés par le gouvernement, ça me tente même pas de jaser avec ces gens-là. Là, vous me dites, non, au contraire, il faut essayer de... j'essaie de voir la solution. Si on veut pas les rejeter, si on veut pas les radicaliser plus, on fait quoi avec eux autres?
Mais d'abord, ça commence réellement par comprendre. Parce que derrière, justement, des croyances complotistes, par exemple, il y a souvent un déni aussi d'une anxiété qui est là. Donc, chacun d'entre nous vit la pandémie comme étant possiblement anxiogène. Hein? C'est gros ce qu'on vit. Alors, certains vont réagir en étant plus dans l'action, en allant chercher le vaccin. D'autres vont être dans ce déni-là. Alors, la première étape, nous-mêmes, c'est d'aller comprendre que c'est un mécanisme une tentative de gérer l'angoisse pour plusieurs personnes. Alors, ce qu'on peut faire, c'est justement essayer d'ouvrir le dialogue, essayer d'offrir des endroits pour pouvoir s'exprimer. Il est tard dans la pandémie. En ça, pour de futurs moments de crise, là, faisons ça dès le début. Avoir un espace pour exprimer nos émotions, pour expliquer aussi au fur et à mesure qu'est-ce qu'on est en train de vivre émotionnellement parlant, pour éviter que ça escalade. Mais rendu à ce stade-ci, ça se peut que ça soit tellement avancé que certaines personnes, juste d'ouvrir le dialogue, c'est rendu très tard.
Ouais. Alors, on peut penser... Il y a des catégories là-dedans aussi. Là. Même dans, il y a des sous-catégories, mais dans ce qu'on appelle complotisme, moi, il y en a qui m'écrivent de temps en temps, puis ils sont absolument convaincus que j'ai un chèque de François Legault puis de Bill Gates. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas discuter. On ne vit pas dans la même réalité. On n'est pas dans le même monde, là.
Oui, mais rendu à ce stade-ci, il y aura l'effort de se dire, trouvons des solutions créatives. Et est-ce que, par exemple, des tests sur une base quotidienne de dépistage rapide, dans certains cas, pourraient être vécus comme étant moins contrôlants? Là, je me base d'un point de vue psychologique, d'accord? Je suis pas au niveau de la santé, mais si ce sont des manières alternatives qui sont viables sur le plan de la santé publique, est-ce qu'on peut, rendu là, penser de dire, est-ce que ça pourrait être une alternative qui serait peut-être moins agressante, justement, moins contrôlante? Encore une fois, c'est un travail qui aurait pu être fait avant pour ne pas se rendre jusque-là. Mais là, comme on est les deux pieds dedans, essayons d'ouvrir le dialogue, d'entendre qu'il y a par exemple, le fait de manifester, c'est correct de permettre de témoigner notre frustration, de l'irritation, c'est correct. Psychologiquement parlant, c'est important. Mais là où c'est pas possible, ben, on peut peut-être penser à ces stratégies alternatives-là comme une façon de travailler collectivement. Parce que si on fait juste exclure, on peut pas avancer ensemble. Puis surtout pas, c'est pas une façon qui va nous préparer pour de futurs moments de crise comme ceux-là.
Docteur Beaulieu-Pelletier, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Très intéressant.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Docteur Geneviève Beaulieu-Pelletier, elle est psychologue et conférencière. Je trouve ça intéressant. C'est pas facile ce qu'elle nous demande, par exemple.
Non.
Mais d'abord, elle nous demande de ne pas mettre tout le monde dans le même paquet. Mm-hmm. Tous ceux qui refusent le vaccin, là, arrêtons avec les catégories que j'appelle les manchettes. Là. Ça fait des belles manchettes, covidio, complotistes, anti-vaccins. Mais elle nous rappelle, puis je trouve ça intéressant, qu'il peut y avoir des gens qui ont peur des piqûres. Ils sont là-dedans, sont dans les stats. Là. Ça, ils sont dans vrai. 10 à 15 %. Ils ont jamais fait une vidéo YouTube de leur vie sur Bill Gates, mais ils ont juste peur des piqûres. Il y a des gens qui sont anxieux actuellement, qui se sentent impuissants. La pandémie a rendu des gens peureux. Mm-hmm. Il peut y avoir des gens, c'est juste un manque d'information où ils sont mêlés. Parce que j'adore quand tu as dit « il y a trop d'informations ». C'est à l'avant, là, il y avait un bulletin à 22 heures puis le journal le lendemain. Mm-hmm. C'était ça ma consommation aux médias. Pendant une bonne partie de ma vie, on choisissait entre Durham puis Moisan à 22 heures, puis le lendemain entre Le Soleil puis le Journal de Québec. T'avais deux choix à faire. À ce temps, c'est quoi? C'est illimité, là.
Absolument.
T'as du monde de partout qui disent...
Fait que c'est, donc, plus que ça, il faut que tu décernes la bonne information et la mauvaise.
Ouais. Alors, elle nous dit que faites attention aux étiquettes. Je suis d'accord avec elle. Maintenant, quand on parle des plus, appelons ça, radicaux, elle reconnaît qu'il y en a peut-être qui sont maintenant rendus trop loin là-dedans. Mais même cette catégorie-là, elle nous dit, si vous les insultez, les rejetez, c'est souvent des gens que c'est ça qu'ils ont vécu dans leur vie. Oui. C'est pour ça qu'ils sont rendus complotistes. Ils ont été l'objet de rejets.
Là, ils ont une gang.
Là, ils ont une gang, une communauté, ils sont hot, du monde qui est like. Ils donnent des discours, ils montent en avant, yes, yes, yes. Alors qu'avant, c'était des rejects. Fait que si vous les rejetez, ça va juste les... C'est pas bête ce qu'elle dit, mais non. C'est pas facile, par exemple. Ça devient énervant une journée comme aujourd'hui en plus, où là, ils ont toute l'impression d'avoir gagné sur la machine, le gouvernement. Fait qu'ils énervent, mais je suis d'accord avec elle. Je trouve ça bon.
Il y a une partie de la population qu'on a oubliée là-dedans. Justement, ouais. Des gens qui vivent des vrais problèmes, qui ne sont pas dans des gangs d'antivax ou complotistes, qui ne sont pas sur Internet, mais qui sont chez eux dans le salon puis qui ne sont pas encore vaccinés pour ces raisons.
Le dialogue un peu. Je trouve ça fort intéressant.